Bonjour à chacun d'entre vous, et je vous invite ce matin à continuer nos méditations sur le Fils prodigue, la parabole du Fils prodigue. Alors cela fait longtemps qu'elle a été commencée. Le 22 juillet 2012, nous voyons ensemble comment le grand peintre Rembrandt interprétait, commentait cette parabole du Fils prodigue. Et puis le 29 juillet, soit le dimanche d'après, nous parlions du Fils cadet. Et puis le 2 décembre, le Fils aîné. Et le 10 mars dernier, le père de cette parabole. Et ce matin, j'aimerais que nous voyions un autre personnage de cette parabole. Alors avant de découvrir quel est cet autre personnage, je vais demander à Martine de venir et nous vous ferons la lecture de cette parabole du Fils prodigue à deux voix. Et nous lisons dans la traduction dite en français courant. Alors vous pouvez écouter ou vous pouvez lire dans votre Bible, mais surtout ne pas dormir, ce serait dommage. Pas encore. Luc chapitre 15. À partir du verset 11. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété est parti avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait.
Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait.
Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père.
Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. »
Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous avons engraissé. Tuez-le. Nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent la fête.
Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait.
Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu, et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. »
Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le prier d'entrer, mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau que nous avons engraissé ?»
Et le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. Merci. Alors rappelons que Jésus a raconté cette parabole, à mes yeux la plus belle, la plus profonde, pour répondre aux murmures des pharisiens et des scribes, des docteurs de la loi, qui voyaient d'un mauvais œil que Jésus fréquente des gens peu recommandables. Et en racontant l'histoire de ce père aimant qui avait deux fils si différents l'un de l'autre, Jésus donne un enseignement sur Dieu et sur notre relation avec lui. Qui est Dieu? Comment se comporte-t-il avec nous qui sommes des pécheurs? Et c'est souvent dans les réponses que fait Jésus aux questions que nous nous posons sur Dieu, sur le monde de Dieu, c'est souvent un enseignement déroutant, dérangeant, qui va à l'encontre de la pratique religieuse des pharisiens et de ce qu'on voit aussi autour de nous. Les paraboles étonnent, provoquent notre curiosité, nous interpellent, mais jamais elles nous laissent indifférents. Prenons un autre exemple. Quand un Samaritain s'arrête sur sa route pour secourir un pauvre homme qui a été battu sur la route, alors il est présenté comme un héros et non pas comme un zéro, parce que les Juifs présentaient les Samaritains, les habitants de la Samarie, comme des zéros. Et présenter le Samaritain de telle façon, pour un auditoire juif, c'est plus que surprenant, c'est choquant. C'est comme si aujourd'hui on disait qu'un pasteur ou un curé voit un homme à demi-mort sur le bas-côté de la route et ne s'arrête même pas. Passe alors un Rom ou un Tzigane qui lui s'arrête, appelle les pompiers, le met dans une clinique privée, verse une caution tout en promettant de prendre à sa charge le ticket modérateur. Oui, la parabole du père et de ses deux fils, communément appelée la parabole du fils prodigue, c'est-à-dire de celui qui fait des dépenses excessives, qui dilapide ses biens, nous enseigne sur Dieu et sur notre façon de nous comporter pour plaire à Dieu. Elle nous invite à suivre son exemple. Jésus n'hésite pas à dire « Soyez donc parfaits, oui, parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Philippe parlait tout à l'heure de rêve. Eh bien, voilà un rêve, un idéal. « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Rien de moins. Et ce matin, je vous invite à une autre piste de réflexion tirée de cette parabole, peu courante, parce qu'on a l'impression qu'on a épuisé les quelques personnages de cette parabole, le fils cadet, le fils aîné, le père. Il n'y a pas de mère dans cette parabole, on ne va pas en parler. Alors il y a un serviteur, c'est vrai, qui vient et qui répond à la question du fils aîné, mais il parle si peu que c'est difficile de construire toute une prédication sur lui. Mais il y a un autre personnage, et ce personnage, c'est le narrateur de cette parabole. C'est Jésus. Après tout, les fables de La Fontaine sont connues parce qu'il y a un La Fontaine. Jésus qui raconte cette parabole est loin d'être absent de cette parabole. Et s'il s'adresse aux pharisiens qui se moquent un peu de lui dans sa pratique, dans son attitude à l'égard de ceux qui l'entourent, c'est bien parce qu'il veut parler aussi de lui-même, du sens de sa venue sur terre, au milieu des siens. Alors ce Jésus, il est le Fils parfait du Père. Il est celui dont le comportement ne ressemble pas à celui des deux frères de cette parabole. Alors Jésus a vécu parmi les hommes, rejeté, méprisé, abandonné de tous, meurtri à jamais par son expérience humaine, portant jusque dans la gloire céleste les stigmates de son humanité. Il est le fils cadet qui quitte la maison du Père volontairement, mais sans péché. Il est aussi le fils aîné qui reste attaché à son Père, mais sans la rancune. En toute chose, il obéit à son Père, mais il n'agit pas comme un esclave. Il n'a pas revendiqué quoi que ce soit. Il est obéissant jusqu'à la mort, mais il reste complètement libre. De lui seul, on peut dire, il s'est fait vraiment esclave en devenant semblable aux humains. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. Philippiens chapitre 2, verset 7. Il s'identifie pleinement à notre condition humaine. Il fréquente les gens de mauvaise vie sans jamais commettre le moindre péché et déclare que ceux qu'on considère comme des pécheurs devanceront les gens qui ont une haute opinion d'eux-mêmes dans le royaume de Dieu. Matthieu 21, 31. Oui, Jésus est le Fils qui a quitté la maison du Père pour aller vivre parmi les pécheurs. Et il est revenu marqué par son passage parmi les hommes, ressuscité, portant les marques des clous pour l'éternité. Il a retrouvé la gloire divine, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il était mort, dit le Père, au fils aîné. Il était mort, ton frère, et il est revenu à la vie. Qui mieux que Jésus peut s'identifier à cette parole prononcée par le Père de la parabole ? J'étais mort, et me voici vivant au siècle des siècles, dit Jésus à l'apôtre Jean au début du livre de l'Apocalypse. Jésus a sacrifié tout ce qu'il avait. Méprisé, le plus humble des hommes devant qui on se voile la face, n'hésitant pas à répondre aux appels des malades, fréquentant ce qu'on appelle des pécheurs, il a été traité même de blasphémateur, et même par sa propre famille de possédé, il est retourné dans la maison de son père par la croix, qui est une souffrance pire que celle de garder des cochons. La croix, c'est le châtiment maudit dont on détourne le visage. Maudit est quiconque est pendu au bois, Deutéronome 21, 23. Méprisé, abandonné des hommes, Ésaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face. Tout cela, il l'a accompli, Jésus, non comme un fils qui se révolte contre son père, mais comme un fils obéissant, qui a été envoyé par son Père pour ramener à la maison tous les enfants perdus de Dieu. Il est lui-même retourné à la maison paternelle, et avant cela, il nous a dit, « Je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » N'est-il pas dans ce sens-là le fils prodigue de la parabole, car je vous l'ai déjà dit, c'est génial, dans la langue française, le mot prodigue a deux sens complètement contraires. Le premier, un fils prodigue, c'est quelqu'un qui dilapide ses biens. Mais le deuxième sens, qui est aussi tout aussi français que le premier, c'est celui qui distribue, qui donne abondamment, qui partage. N'est-ce pas ce que Jésus a fait ? Il a partagé l'amour de Dieu, il a partagé tout ce qu'il avait. Et c'est bien sûr ce deuxième sens qu'il faut appliquer à Jésus et à Dieu. Oui, Jésus est le fils prodigue du père prodigue. Il n'a pas dilapidé ses biens, mais il les a volontairement quittés. Il s'est sacrifié pour que moi, pour que vous, enfants prodigues dans le premier sens, nous puissions retourner dans la maison du Père Céleste. Mais il est aussi le fils aîné qui travaille, mais librement pour son Père, en pleine unité avec lui. Jean 5, 17, Jésus dit « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille ». Et dans ce sens-là, il est le frère aîné modèle, parfait, non pas aigri, non pas rancunier. Il est envoyé par le Père pour révéler l'amour infini de Dieu. En tant que fils aîné d'une multitude de fils et de filles, Hébreux 2, 11, il n'a pas honte d'être appelé ses frères ou leurs frères. Il se réjouit du retour au Père d'un seul pécheur qui se repent. Luc 10, 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Gardons cette âme d'enfant, c'est-à-dire de foi, de dépendance vis-à-vis de Dieu. Il est le bon berger qui cherche sa brebis égarée jusqu'à ce qu'il la trouve. Oui, Jésus est ce fils prodigue envoyé par son Père dans un monde étranger. Il est le fils aîné qui travaille pour son Père. Mais à l'inverse des deux frères de la parabole, il est le fils parfait qui fait la volonté du Père. Alors c'est vrai que cette interprétation-là va au-delà du sens commun de la parabole. Cependant, elle est conforme au message que Jésus veut faire passer aux scribes et aux pharisiens qui le critiquent. Souvenez-vous, parce qu'il accueille des pécheurs, parce qu'il mange avec eux, avec ceux que les Juifs considéraient comme impurs, les lépreux, les péagés, les gens de mauvaise réputation. Ils ont besoin de se convertir, de se tourner vers Dieu, d'accueillir le Fils de Dieu comme le Messie, l'envoyé de Dieu, de changer de comportement. Comme nous avons tous besoin de passer un jour ou l'autre par la conversion, par cette attitude qui dit « Seigneur, je te donne ma vie, dorénavant, maintenant, je veux marcher avec toi, maintenant, je veux faire de toi mon Seigneur ». Sans ce moment, sans cette conversion, nous serons comme, d'après l'expression du prophète Élie dans l'Ancien Testament, nous ferons partie de ceux qui clochent des deux pieds. Nous ne saurons plus vraiment qui servir véritablement. Nous avons besoin d'avoir une attitude ferme à l'égard de Dieu. Tous ceux qui nous entourent, Jésus veut que nous les considérions comme des personnes que Dieu aime et qu'il veut sauver. Parce que lui, il est allé vers les petits, vers les laissés pour compte, vers les rejetés de la société. Et parmi eux, il y avait aussi des officiers de l'armée romaine, des soldats de l'armée d'occupation. Et dans cette parabole, Jésus prend l'exemple d'un fils dont il ne minimise pas la culpabilité, mais qui a besoin d'amour, de pardon, et non de rejet et de mépris. Et refuser de pardonner au fils prodigue qui a mené grande vie, qui a dilapidé tous ses biens, mais qui ne demande qu'à être accueilli, c'est ne rien comprendre à l'amour de Dieu, à l'amour que Dieu nous porte. Les pharisiens étaient comme cela, si loin de l'amour de Dieu pour les hommes. Pour eux, le message de la Bible se résumait en un code de loi. Pas étonnant que Jésus leur était tellement étranger, qui était rempli de compassion. Nous avons besoin de nous laisser aussi transformer par la parole de Dieu. N'est-ce pas pour cela que nous lisons la Bible, que nous venons au culte? Ce sera toujours la lutte entre ce que la Bible, ce que l'apôtre Paul appelle la chair, c'est-à-dire notre propre nature, notre nature pécheresse, et l'esprit, la vie spirituelle que Dieu veut placer en nous. Marchez par l'esprit, écrit l'apôtre Paul, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ou de votre propre nature. Maintenant, Jésus est retourné dans la maison du Père. Il a reçu la plus belle robe, celle de la gloire céleste qu'il avait auparavant, un anneau au doigt, celui qui lui confère l'autorité divine, des sandales aux pieds. Ce sont les serviteurs qui marchent pieds nus et ils préparent son église pour les noces de l'agneau. Quelle fête! Quelle fête en perspective! J'espère que vous y serez tous, que personne ne sera laissé à la porte parce qu'il n'aura pas revêtu la robe que seul le Seigneur peut nous donner. Oui, nous aussi, nous recevrons la plus belle robe. Même les hommes recevront une robe, hein, et pas seulement les Écossais, mais tous les sauvés recevront une robe. Car la robe était le vêtement des hommes aussi bien que des femmes dans le monde antique. Alors que les hommes ou que les femmes portent des robes ou des pantalons, peu importe. Une bague au doigt, des sandales aux pieds, la marque des fils et des filles de Dieu, et non pas des serviteurs. En serez-vous? Vous êtes invités, en tout cas, aux noces de l'agneau. Mais encore faut-il répondre à l'invitation divine. C'est une autre parabole de Jésus qui l'indique, qui insiste là-dessus. Sans tarder, car, dit Jésus, les appelés sont nombreux, mais ceux qui répondent à l'appel, peu nombreux. Et personne ne sait jusqu'à quand la porte de la grâce restera ouverte. Elle se fermera lorsque le Seigneur reviendra, mais elle se fermera aussi lorsque vous mourrez. Et personne ne connaît la date de sa mort. En prenant la place du fils cadet et en comparant les prêtres et les scribes au fils aîné, Jésus suggère qu'il est rejeté par ses frères alors qu'il est pleinement accueilli par le Père. Et il invite ses auditeurs à l'accueillir pleinement comme il nous invite en cet instant même à l'accueillir aussi pleinement, pour que nous puissions retrouver la pleine communion avec le Père. Au tout début de l'évangile de Jean, l'apôtre Jean écrit ceci au sujet de Jésus à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné, et j'insiste sur ce mot « donner », c'est-à-dire que c'est un don, c'est un cadeau, c'est une grâce. Il a donné le pouvoir, c'est-à-dire que ce pouvoir, Dieu seul peut le faire, nous ne pouvons pas le faire, de devenir enfant de Dieu. À ceux qui mettent leur foi en lui, ceux-là sont nés, non du sang, c'est-à-dire non de la nature humaine, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Nés de Dieu, nés de nouveau. Voilà ce que le Seigneur désire faire en chacun d'entre nous. Puissions-nous tous nous placer devant lui et répondre à son appel. Amen. Prions Dieu. Seigneur, comment résister à un si grand amour? Comment ne pas t'inviter à vivre dans notre cœur, à te confier toute notre vie, toi qui es le Créateur, le Maître Tout-Puissant, toi que rien n'arrête, toi qui accomplis ton dessein jusqu'à la fin des temps? Merci parce que tu désires être notre Père Céleste. Tu désires faire de nous tes enfants. Pardonne souvent nos désobéissances, notre stupidité à vouloir faire notre vie de nous-mêmes, par nous-mêmes, sans tenir compte de toi. Merci pour ce si grand amour. Merci pour Jésus. Merci pour cette parabole qui nous montre qui tu es, mais qui nous place aussi devant notre responsabilité. Seigneur, agis dans chacun de nos cœurs et que nous sachions te dire « Viens Seigneur, parce que toi tu nous ouvres tout grand tes bras, parce que tu nous attends, parce que tu nous ouvres ta maison pour l'éternité. Bénis encore ta parole dans nos cœurs. Amen. » Amen.